l'heure, soulever lourd, c'est pas strictement égal à de la force. C'est-à-dire que soulever lourd, ça va être une démonstration de votre force, mais ce n'est pas uniquement comme ça que vous allez développer votre force.
Bonjour à tous et bienvenue sur Level Up, le podcast de Intuitive Training, l'émission qui aborde tous les sujets liés à l'entraînement, la nutrition et la récupération. Je suis Eleanor, toujours Athlétique Intuition sur les réseaux, et aujourd'hui, je suis accompagnée de mes deux acolytes et associés préférés, Thomas Tapti, ou Wild Soul Trainer sur Instagram, et Nicolas Florisson, plus connu sous le nom de Tarzan from the Town. On est absolument ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode, on espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions ou à nous soumettre des idées de sujets sur Instagram, @intuitivetraining.fr, on sera vraiment ravis de pouvoir les traiter dans les prochaines semaines du podcast. Sans plus attendre, je vous laisse avec la conversation du jour. Bonne écoute! Coucou, c'est Renou!
Hello, hello!
En vous, ça passe de semaine en semaine, mais nous,
c'est Renou.
Il s'est passé.
Coucou, c'est Renou!
Il s'est passé 1 minute 30 entre le premier et le deuxième.
À peine!
T'as comment ça va, Elé?
Bah, ça va, écoute, longtemps. Ça fait trop longtemps que ça va, écoute, ça va, et toi?
Bah, ouais,
code 9.
Non, bien.
Ah, vous voyez, manquer les gars. Toi, il est blasé.
Non, pas du tout. Je suis un peu fatigué, là.
Ah, bah, le...
C'est rare, mais c'est pas grave parce que demain, je pars en vacances.
Ouais, chanceux, tu pars où?
Je vais au ski.
Oh là là. 10 jours de ski, là.
10 jours de ski.
Un peu de glisse.
Un peu de glissade.
Il va nous envoyer
des chutes, surtout. Je vais t'envoyer des chutes.
Des vidéos où il se roule dans la neige.
Exactement.
Ah oui, il a décidé d'essayer de faire un salto en ski.
On va essayer.
Alors qu'il ne fait pas de ski.
On va voir à la fin. Il faut que ça soit autorisé par le Haut Conseil. Un bon tremplin avec une bonne mousse.
Beaucoup de mousse.
Beaucoup de mousse. Une bonne poudreuse.
Tu te casseras rien, s'il te plaît. Merci. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons faire suite à notre dernier enregistrement, notre dernier épisode où on abordait le sujet de la force et d'où elle était issue. Son petit nom, c'est quoi, quel petit nom on a donné à notre...
Le petit nom, balèze, non, c'est...
Non, c'est juste de la gonflette.
C'est juste de la gonflette.
Histoire d'avoir un petit nom, c'est un peu putaclic. Et aujourd'hui, ça va être... comment devenir fort? Non, en gros, l'idée, c'est de continuer, d'être dans le prolongement de ce premier épisode un peu technique sur la force. On a parlé de physiologiquement quels étaient les facteurs qui contribuent à son amélioration, et maintenant on va passer sur le terrain, sur un peu plus concrètement quelles actions mettre en place pour devenir plus fort. Je suis dans le juste, les gars, on est bon?
Non, on est bon, ça, ouais. Là on va voir, exactement, les variables qu'on peut utiliser, la mise en place, comment faire, quelle méthodo en soi, comment aborder le travail en fonction de ce que vous voulez, ce que vous cherchez, et quel type de travail va plutôt jouer sur certains mécanismes, etc. Okay.
On va pas, on fera peut-être des podcasts sur capsules sur des méthodos précises, un peu comme on a fait un podcast sur le sujet de l'EMOM. Qui est un format d'entraînement, et on fera peut-être des petites épisodes capsules sur les méthodos en rentrant un peu plus dans les détails. Là, l'idée, c'est pas de rentrer dans les méthodos, c'est
de déblayer le terrain un peu.
De déblayer le terrain. Comment tu veux le structurer? Comment? Vas-y.
Déjà, en fait, on peut parler des deux variables que vous allez utiliser en entraînement principalement pour pouvoir améliorer votre force ou améliorer les facteurs liés à la force. Donc la variable qu'on peut utiliser, qui est tout simplement la variété des exercices. Est-ce que je varie beaucoup mes exercices ou peu mes exercices? Et la deuxième variable, c'est tout simplement, est-ce que je fais régulièrement ce qu'on appelle des efforts maximaux ou peu régulièrement des efforts maximaux? Alors des efforts maximaux, c'est tout simplement des efforts qui vont être supérieurs à 85-90% de votre max. Et cela, vous pouvez les effectuer soit avec des méthodes concentriques, soit avec des méthodes excentriques, soit avec des méthodes isométriques. Donc il y a plusieurs méthodes, mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est, est-ce que je varie souvent ou pas? Est-ce que j'utilise souvent ou pas des efforts maximaux, c'est-à-dire des charges lourdes? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, soulever lourd, c'est pas strictement égal à de la force. C'est-à-dire que soulever lourd, ça va être une démonstration de votre force, mais ce n'est pas uniquement comme ça que vous allez développer votre force. D'accord ? Donc c'était l'idée un petit peu d'expliquer sur les paramètres qu'on a
testé. Ok, très bien. Bah, commençons par le premier, par la...
La variété d'exercice.
Ouais.
Alors, bah justement, l'idée, c'est de se dire qu'à partir du moment où vous avez deux variables, 2 fois 2 égale 4, on va avoir 4 combinaisons possibles. C'est-à-dire que les 4 combinaisons possibles, ça va être premièrement, tout simplement utiliser peu d'exo, et par contre, soulever lourd souvent avec ça.
Ok.
D'accord.
C'est-à-dire aller. Quand tu dis soulever lourd, c'est aller au-dessus
c'est
de
80... C'est les efforts maximaux. 85. 85. Super à 85.
Efforts maximaux. Ok.
Des efforts maximaux. Et des efforts maximaux, on se rapproche de l'échec, c'est-à-dire avec des RPE, donc assez élevés.
RPE, d'accord, c'est l'échelle de ressenti.
Exactement,
de la difficulté.
Et donc,
c'est de
ce
1
qui.
À 10.
Ça veut dire que c'est ce que je fais 2 reps et il m'en reste. Ou pas, voilà. Donc là, l'idée, c'est on va pousser.
Quand t'as un RPE de 10, par exemple, c'est vraiment...
Ah bah c'est que tu peux pas faire plus de reps. Mais c'est très rare d'arriver à ce RPE-là. En général, on va estimer qu'à un RPE 9, 9,5, on est sur un effort proche d'un effort maximal.
Ok.
D'accord. Du coup, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que c'est peu d'exo avec des charges lourdes régulièrement.
Ok.
Ça, c'est la façon dont les Bulgares développent principalement la force. C'est une méthode qu'on va pouvoir observer assez régulièrement sur des méthodes bulgares, donc pas méthode bulgare lourd-léger, hein, donc pas ce que j'appelle le contraste de charge, mais tout simplement comment les Bulgares développent principalement de la force. Donc, c'est une méthode qui finalement va me rapprocher, notamment si je suis haltérophile ou si je fais de la force athlétique, de ce que je vais vivre en compétition, parce qu'en compétition, on me demande sur un mouvement bien spécifique de déplacer une charge lourde.
Et tu te rapproches aussi d'un des principes, toute la maîtrise, la technique, alors, que tu mets en avant encore plus avec cette méthodologie.
Alors, tu développes la technique à condition d'avoir déjà une bonne technique, parce qu'attention, quand tu vas commencer à soulever des charges lourdes, si tu n'as pas une bonne technique d'exécution, tu vas pouvoir aussi compenser. Donc, il faut faire attention, c'est-à-dire que, effectivement, que si, à condition que j'ai une bonne technique, à condition que j'ai une capacité à pouvoir faire face aux charges lourdes régulièrement, à partir du moment où j'ai suffisamment construit de masse musculaire, à partir du moment où j'ai pas de ce qu'on appelle de poids de blocage ou de sticking point, c'est-à-dire de maillon faible, et à partir du moment où j'ai, c'est non négligeable, des articulations d'acier, je vais pouvoir utiliser cette méthode-là. Il va falloir faire très attention parce que c'est très stressant au niveau nerveux, puisque tu as des charges lourdes régulièrement. Mais effectivement, que ça te met en condition, puisque c'est un mouvement bien spécifique, répété avec des charges lourdes régulièrement. Donc, un truc qu'on peut voir en ce moment, ça se développe un peu pas mal, c'est ce qu'on appelle le squat everyday, mais lourd. Donc, c'est-à-dire que tous les jours, ok. C'est une méthode qu'on peut utiliser.
Ah, tu me l'as fait faire, ça?
Ouais, on l'avait fait faire. Alors, nous, c'était pas exactement ça parce qu'on était quand même sur du sous-max. C'est-à-dire que c'était du lourd, mais pas extrêmement lourd.
Bah, pour moi, c'est...
Alors,
attends, tu m'avais demandé, j'étais proche de mon max, gars.
T'étais autour de 85%, mais pas tout le temps. C'est-à-dire qu'on squattait souvent, mais tous les jours, c'était pas forcément du max. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je te faisais faire un tout petit peu moins lourd.
Alors, tu te souviens pas, c'était pendant le deuxième confinement où j'étais chez mon oncle et tu m'as dit « Ok, Elé, aujourd'hui, tu me fais 2 reps à temps tous les jours. »
Mais le poids...
Tu te souviens?
Ouais, mais le poids changeait.
Non.
Le pourcentage faisait que augmenter.
Il était le même, c'était la même barre.
Ok, bah alors... t'étais sur une barrière, t'étais sur un palier.
Bah alors effectivement, alors à ce moment-là, c'est vraiment du bulgare. C'est ce qu'on avait fait pendant le confinement. Parce qu'à un moment donné, on avait fait une autre méthode,
oui, autre chose, ouais,
où en fait, on faisait du squat tous les jours.
Oui, je me souviens aussi.
Mais à un moment, c'était en effort maximo et à un moment, c'était en effort dynamique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je te faisais faire du squat lourd et le lendemain, tu faisais du squat, cette fois-ci léger, soit avec des élastiques, soit avec une résistance et je te demandais cette fois-ci d'être explosif. Mmh. Le nombre de reps était faible de toute façon dans les deux, mais c'est une autre façon de faire
Mais par contre, on a vraiment fait bulgare.
D'accord, bah alors à ce moment-là, c'est une méthode issue de l'entraînement bulgare. Donc, ça fonctionne assez bien, mais... Voilà, comme toute méthode, on fait attention. Il faut déjà avoir un bon vécu en squat. On ne va pas commencer à faire cette méthode-là lorsqu'on débute en squat, hein, bien évidemment. Et il faut aussi y aller progressivement et avoir un deload aussi qui est bien réfléchi. Parce que sur tes phases de décharge, à un moment donné, on en avait quand même. C'est-à-dire qu'on faisait, on avait fait 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, boum, décharge. Et je crois qu'on avait fait ça pendant, si à un moment, on avait dû faire 2 cycles. Donc, on a dû faire 2 cycles sur 6 semaines, normalement. Donc, faire 3 semaines, 1 et 2 ou 3 semaines, je pense.
Mais du coup, c'est qu'on a une technique déjà bien ancrée.
Bien ancrée, voilà, et il faut avoir suffisamment, je te dis, peu de maillons faibles. Ouais. Ok. Même si effectivement, Hélène en avait encore un petit peu, mais le squat, c'est quand même un mouvement qu'elle maîtrise.
Bien sûr.
Donc maintenant, effectivement, on veut qu'elle augmente un petit peu plus sa force, mais il faut que ça soit un mouvement quand même que vous maîtrisiez. Et pareil, il faut faire aussi attention, notamment si c'est quelque chose que vous voulez faire de manière assez régulièrement, en respectant les décharges, d'avoir idéalement quand même. Une capacité à pouvoir récupérer entre les séances suffisante. C'est pour ça qu'à à ce moment-là, dans le confinement, ça avait du sens. Parce que de toute façon, derrière, tu faisais, quand je dis pas grand-chose, c'est-à-dire que tu restais chez toi, la plupart d'entre nous, voilà. Donc ça correspondait bien. Moi, c'est une méthode que j'ai utilisée pas mal de fois pour différents mouvements. Okay, même des tractions lestées, par exemple, ou des dips lestés, ou d'autres mouvements.
Ok, donc premier, variété, peu de variété et
effort maximum fréquent.
Voilà.
Ensuite, on va avoir toujours peu de variété.
Peu de variété, ok.
Mais cette fois-ci, des efforts maximaux, et c'est ce que je fais un peu plus souvent, moins fréquent, c'est-à-dire qu'on va avoir des efforts maximaux une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines. Mais sur cette méthode-là, ce qu'on appelle aussi, c'est une méthode beaucoup utilisée chez Strong First, qui est la méthode développée un peu par Pavel Tatsoulin en kettlebell. C'est que tu vas avoir peu d'exercices, pas beaucoup d'exercices de base, et par contre, tu vas tous les jours répéter ces exercices-là. Donc, c'est-à-dire que tu vas choisir 2 ou 3 exos, okay, des fois même tu peux choisir 1, ça va dépendre de ce que tu veux axer. Et derrière, tu vas être entre 70 et 80% maximum. Et en plus, tu vas essayer de ne pas aller à l'échec.
Okay.
L'objectif de ça, c'est huiler la mécanique, essayer de faire en sorte d'améliorer la technique. Puisque, comme je te l'ai dit, autant sur les charges lourdes, tu as une amélioration de technique, mais tu as une amélioration de technique à partir du moment où tu as suffisamment une bonne technique et tu n'as pas de compensation musculaire. Si tu fais la méthode qu'on a vue tout à l'heure et que tu as des grosses compensations musculaires, attention. Utilise plutôt la méthode dont je te parlais à l'instant, si tu as des compensations musculaires, pour pouvoir être capable de travailler sur ces compensations musculaires avec des charges plus légères et travailler la technique, travailler aussi tout ce qui va être la coordination, donc on en parlait tout à l'heure, donc la coordination à l'intérieur de ton muscle et ta capacité à recruter tes fibres musculaires aussi, donc la coordination aussi entre tes muscles, ta capacité cette fois-ci à recruter les différents muscles en synergie.
Ok, ouais, ça agit du coup, cette méthode agit plutôt sur des facteurs physiologiques. Donc, issu de la technique.
Issu de la technique et issu du nerveux, mais sur tout ce qui est synchronisation et coordination.
Ouais. Mais du coup, synchronisation intramusculaire.
Alors, la synchronisation, c'est intramusculaire et la coordination, c'est intermusculaire.
Oui, mais du coup, sur les deux ?
Sur les deux, ouais.
Sur les deux, ok. Très bien.
Donc, ça, c'est une bonne méthode. En plus, ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est qu'elle est durable dans le temps.
Ouais. Oui. Ok.
Puisque, de par le fait de ne pas régulièrement soulever des charges lourdes, tu peux répéter.
Contrairement à la bulgare qui demande de la deload ou des trucs comme ça.
Qui demande de la deload. Alors, sur celle-là, tu peux aussi, dans toute méthode à un moment donné, faire de la deload. Sauf que ta deload, cette fois-ci, peut-être que tu ne la feras pas sur le fait de diminuer la charge, mais tout simplement le fait de mettre peut-être un peu plus de variété dans tes exercices à un moment donné en deload, avant de revenir sur des exercices peu variés, par exemple. Donc, ça, c'est une méthode qui est durable dans le temps. Par contre, elle fonctionne qu'à partir du moment où, quand même, une fois de temps en temps, vous utilisez des efforts maximaux, parce que si tu le fais pas, tu seras pas capable de construire une technique qui est productive lorsque tu as des charges lourdes. Okay. C'est-à-dire que tu seras toujours capable de faire bien le mouvement que quand tu es en sous-max.
Okay.
Donc il faut être aussi capable de faire le mouvement bien, mais face à des charges lourdes. Donc il faut t'exposer quand même de temps en temps à des charges lourdes.
Donc tu peux très bien varier tes cycles, par exemple, pour quelqu'un qui est relativement bien, tu peux le bulgare et celle-ci. Alors, pour essayer d'avoir des pics un petit peu.
Alors, tu vas pas varier, tu vas pas varier, tu vas, parce que la façon bulgare, c'est bien une stimulation, avec peu d'exos, mais lourd régulièrement, et l'autre, c'est bien l'opposé, c'est-à-dire toujours peu d'exos, ouais, mais avec une stimulation lourde non régulièrement. Donc, pour pouvoir l'exploiter, il faut quand même que tu aies une stimulation lourde, mais non régulièrement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines. Donc, une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, tu vas t'exposer à des charges lourdes sur ce mouvement-là. Par contre, effectivement, tu peux aussi mélanger les différentes
combinaisons.
Et faire des cycles de combinaisons. Ça, on en parlera tout à l'heure, dans quel ordre optimal faire les cycles et en fonction de quelle phase les placer.
Ok. Maintenant, on passe du coup...
Maintenant, on va parler de haute variété d'exercices.
Voilà, haute variété d'exercices et...
Et des efforts maximaux fréquents.
Fréquents, ok.
Ok. Donc, cette méthode-là, donc, il y a plusieurs personnes qui l'utilisent. Une des catégories de personnes qu'on va retrouver, l'utiliser souvent en termes de programme, ça va être tout ce qui est Weight Size Barbell, donc, de Louis Simons, pour ceux qui connaissent. En force athlétique, ils sont amenés aussi à l'utiliser régulièrement, cette méthode-là. En force athlétique, l'objectif, ça va être quoi? Ça va être, au niveau de cette méthode-là, d'avoir des mouvements, on va dire, qui vont être variés, ou des variations de ton mouvement de base et des mouvements accessoires. Les mouvements accessoires, c'est des mouvements qui vont targeter tes points faibles, okay, ou qui vont augmenter de la masse musculaire sur certains mouvements ou certaines zones récalcitrantes au niveau musculaire pour pouvoir combler soit des compensations musculaires, soit pour pouvoir tout simplement essayer d'améliorer la structure globale pour pouvoir faire face plus tard à des charges lourdes, d'accord, ou pendant la période à des charges lourdes. Donc du coup, tu vas avoir un panel d'exercices variés. Tu vas utiliser des mouvements de base que tu vas tourner toutes les 4 semaines. Donc, c'est-à-dire que tu vas développer ton pattern, comme on parlait de squat. Mais une fois, tu vas développer ton pattern de squat avec du front squat. Au bout de 3 ou 4 semaines, tu vas le développer avec du back squat. Puis, tu vas le développer avec du back squat, mais avec une box, donc en limitant l'amplitude peut-être de mouvement. Puis, tu vas utiliser du Zercher squat. Donc, tu vas moduler des variantes de squat. Et en plus de moduler tes variantes de squat toutes les 3 à 4 semaines, tu vas aussi avoir des exercices accessoires qui vont changer. Donc, les exercices accessoires, c'est des exercices qui vont venir soutenir, okay, les muscles sollicités lors des mouvements de base.
Okay.
Mais par contre, tu vas aussi utiliser régulièrement des charges lourdes.
Okay.
Donc, tu vas utiliser régulièrement des charges lourdes. Alors, le Weight Size Barbell, c'est quelque chose qui est un peu au milieu parce qu'ils utilisent des charges lourdes, mais ils utilisent aussi ce qu'on appelle beaucoup des efforts dynamiques. C'est-à-dire qu'ils utilisent des efforts maximaux et des efforts dynamiques, c'est-à-dire des charges plus légères avec de la vitesse. Mais globalement, c'est quand même une méthode où tu vas soulever lourd quand même, on va dire, relativement régulièrement.
Okay.
Et en tout cas, ça, c'est une méthode qui est intéressante pour développer ta force de manière globale,
ouais,
puisque tu as un changement de stimulation. C'est une méthode qui va aussi te permettre de développer de la masse musculaire.
Okay.
D'accord. De par le volume total exécuté sur les différentes zones musculaires. Par contre, c'est une méthode qui n'est pas forcément bonne si tu n'as pas développé suffisamment de fondations et suffisamment de techniques dans les différents mouvements. Et du coup, bah, pas trop adapté, voire même pas du tout adapté pour des gens qui débutent.
Okay.
D'accord. Même si souvent, on voit des gens qui débutent faire ça.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on voit des gens qui débutent changer leur squat souvent et en plus faire beaucoup de mouvements accessoires, alors qu'ils devraient faire plutôt l'inverse.
Okay.
Plutôt utiliser la méthode 2 dont on a parlé.
Okay.
La combinaison 2, parce que c'est pas une méthode en français.
L'apprentissage pour la...
Exactement.
Ok. Très clair. Ok. Dernière.
Et la dernière, cette fois-ci, ça va être toujours une haute fréquence d'exo. Donc tu vas changer.
Une grande variété
d'exo, excuse-moi. Avec une fréquence d'efforts maximaux faible cette fois-ci. Donc ça, ça s'associe, pour ceux qui suivent un petit peu sur les réseaux sociaux, un mec qui est assez connu qui s'appelle Mike O'Hearn. Ronnie Coleman faisait un petit peu ça aussi. C'est-à-dire que ça s'apparente à du bodybuilding, c'est ce qu'on appelle du power building, mais c'est une forme de bodybuilding où on va quand même faire un peu moins de répétitions avec des charges un peu plus lourdes, mais les charges lourdes ne sont pas des efforts maximaux. C'est-à-dire on est autour de 4 à 6 répétitions, okay, donc on est, on va dire, sans aller à l'échec complète non plus, on va être en dessous de 90-85%, d'accord ? On va rarement aller à plus de 85%. En général, on va plutôt être autour de 80%. Mais on va changer les exercices régulièrement, que ce soit l'exercice de base. Et on va avoir tout un tas d'exercices d'assistance ou en tout cas d'exercices supplémentaires pour pouvoir développer tes zones musculaires de manière isolée. Donc, tu auras des exercices d'isolation et des exercices globaux. C'est une méthode qui est très intéressante pour développer ta masse musculaire. Donc, jouer sur, on va dire, les facteurs de construction musculaire dont on a parlé. Ça peut être intéressant pour développer aussi tout, tous les différents aspects structuraux. C'est une méthode, il faut faire très attention avec cette méthode-là, parce que souvent, du fait qu'on utilise des charges moins lourdes, on a tendance à être un peu trop gourmand sur le volume. Donc, il faut faire attention, on a tendance à faire trop de volume pour, justement, notamment chez les personnes qui font du bodybuilding, qui sont un petit peu naturelles et tout, on tendance à trop faire de volume, et ça peut engendrer, au-delà de blessures et de problèmes, tout simplement des gains musculaires qui sont plus faibles que si on avait un volume beaucoup plus optimal.
Ok.
Est-ce que... Alors, je me doute que non, mais je te pose quand même la question. Est-ce que ça voudrait dire que les deux premières méthodes joueraient un petit peu plus sur le facteur nerveux que les autres, ou pas spécialement?
Pas spécialement, parce que dans le facteur nerveux, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, le facteur nerveux, il ne faut pas l'assimiler comme une seule chose. Il faut l'assimiler comme une somme de choses. Et dans la somme de choses dont on a parlé, on avait parlé du recrutement. Et on avait parlé de la coordination et de la synchronisation. En réalité, sur la coordination et synchronisation, même si tu crées de la variété d'exercices, à partir du moment où quand même tu as des patterns de mouvements qui sont répétés, même si tes exercices sont variés, tes patterns de mouvements sont répétés, à un moment donné, il va quand même y avoir des améliorations de la synchronisation et des améliorations de la coordination. Par contre, ces améliorations de la synchronisation et de la coordination ne vont pas forcément te permettre d'être plus fort dans un mouvement précis. C'est là où il faut faire attention. C'est pour ça que votre force, c'est quoi? Maintenant, lorsque vous êtes capable de répondre « Ah bah moi, je veux être fort de manière assez globale », bah fort de manière assez globale, à partir du moment où vous avez, on va dire, suffisamment de bases, parce que je le répète, je suis partisan quand même, même s'il y a d'autres écoles, pour développer des bases avec peu de variété au départ, une fréquence de stimulation régulière, mais une fréquence de stimulation régulière avec pas forcément des efforts maximum.
Bien sûr.
Donc plutôt ce qu'on disait la numéro 2. À partir du moment où vous avez ces fondations-là, le fait de vouloir être fort globalement, bah, c'est aussi de varier les exos. Bien parce sûr. Que, je te l'ai dit, si tu varies les exos, bah, tu vas être fort sur des angles beaucoup plus différents et variés que si tu as peu de variations. Sachant que, oui, effectivement, qu'il y a des facteurs, ce qu'on appelle de vase communicant entre certains exercices. Mais à un moment donné, si par exemple ton but, c'est d'être hyper spécialisé dans un exercice ou deux ou trois exercices, bah là non, il ne faut pas varier parce même si
tu vas perdre ton temps, tu vas perdre ton temps sur d'autres mouvements.
Ta synchronisation, ta coordination vont s'améliorer. Par contre, l'optimisation de la maîtrise technique d'un mouvement bien spécifique ne s'améliorera pas. On t'a perdu
Donc
pas du tout.
Okay, donc, d'accord. Donc en fait, on joue sur différents facteurs nerveux à l'intérieur. Les méthodes te permettent de travailler sur différents points à l'intérieur de ton facteur nerveux.
Exactement.
Et certains...
Donc, il y a une complémentarité, finalement.
Exactement,
Il y a une complémentarité entre toutes les variantes.
Et d'autres qui ramènent un peu plus de construction de muscles via leur méthodologie.
Exactement. Si on devait simplifier au mieux, on pourrait vulgariser comme ça.
L'idée, c'est de passer par tout en fonction de...
Du niveau que tu as, avec lequel tu commences.
Et de tes objectifs aussi.
Il y a le niveau, les objectifs, et après il y a une autre chose. C'est que dans un instant, on va évoquer dans quel ordre optimal on pourrait utiliser ces différentes méthodes sur une petite planif. Okay. Même si ce que je vais vous dire peut avoir du sens pour certaines personnes, notamment peut-être en haltérophilie ou en force athlétique, mais ça aura peut-être moins de sens dans d'autres disciplines.
Okay.
Et pour d'autres objectifs aussi. Mais l'idée, c'est de quoi? C'est de se dire que, en respectant l'ordre évoqué dans un instant, je fais un petit teaser, il va peut-être falloir utiliser les différentes combinaisons afin de trouver quelle est pour vous la façon la plus optimale de développer de la force. C'est-à-dire qu'on a aussi des personnes qui sont plus réceptives à de la variation d'exercice et des personnes qui sont plus réceptives à peu de variation d'exercice.
Ok,
En réalité, une personne qui a une intelligence kinesthésique assez développée peut se permettre beaucoup plus de varier les exos parce qu'elle va trouver des ponts et des transferts et notamment des vases communicants entre ces exos-là, malgré le fait de varier. Une personne qui aurait une capacité ou une intelligence kinesthésique moins développée ferait mieux d'exploiter à fond des exercices peu variés, et d'essayer d'aller chercher l'optimisation de la technique dans des exercices peu variés, plutôt que de diversifier constamment. Et ce qui est assez marrant, c'est que souvent, en fait, je vois les gens utiliser l'inverse de ce qui est bon pour eux. C'est-à-dire que des personnes qui ont besoin et qui aiment la variété, parce qu'avoir besoin et aimer la variété n'est pas exactement égal à ce qui est bon pour toi. Mmh. Et ben, vont utiliser une grosse variété, alors qu'il ferait mieux de ne pas varier. Et des personnes qui arrivent à un certain niveau d'entraînement et qui aiment bien finalement rester sur des mouvements, on va dire, peu variés, parce qu'au-delà du fait que ça fonctionne pour eux, peut-être que c'est des gens qui aiment bien la maîtrise technique et l'expertise technique. En réalité, ils ont acquis une telle maîtrise et expertise technique qu'ils pourraient se permettre de varier un petit peu plus leurs exercices.
Ok, très intéressant. Et du coup, l'ordre?
Alors, idéalement, la méthode qui va être basée sur le fait d'utiliser peu d'exercices avec une fréquence d'effort maximale faible,
oui.
Donc ce qu'on avait dit, la méthode qu'on avait parlé en numéro 2, ouais. C'est idéal pour une phase préparatoire.
Okay.
Donc pour préparer le corps, et donc, qui dit préparer le corps, finalement, on revient un petit peu aussi à des débutants ou aux bases, mais tu peux aussi très bien, étant non débutant, et je le conseille, l'utiliser en phase préparatoire. Ensuite, dans le but de développer, et de notamment commencer à aller attaquer un petit peu tes différents, on va dire, zones et muscles récalcitrants. Parce que probablement qu'en utilisant dans la phase préparatoire peu de variété avec des efforts maximaux peu fréquents, eh ben, tu vas commencer à te rendre compte que tu as des déficits musculaires à certains endroits, ou alors il y a des portions du mouvement où tu es plus faible que d'autres. Et peut-être que ton corps répond mieux à une stimulation musculaire à un endroit et pas à un autre endroit. Et ben, tu vas pouvoir commencer à travailler afin de développer un petit peu plus, notamment ta masse musculaire, et afin de commencer à te frotter un petit peu à des efforts maximaux. Mm-hmm. La méthode 3, qui est une haute fréquence d'exercice.
La Westside Barbell.
Et avec de la charge régulièrement. D'accord. Alors au départ, tu n'iras pas.
Je croyais que tu allais dire la 4. Okay.
Non, parce que celle-là, on va l'utiliser plutôt en phase transitoire.
Ok.
Mais en réalité, selon ton objectif, tu pourrais utiliser celle-là.
La 4.
La 4. Mais on va dire que dans l'ordre que je vais te donner, notamment pour certaines disciplines, on va plutôt l'utiliser en phase transitoire parce que ça va nous faire une forme de déload en fait.
Oh, okay.
D'accord. Et là, on va aller vers une progression. C'est-à-dire que on va. Mais on pourrait faire un intermédiaire. C'est-à-dire on pourrait augmenter la fréquence des exercices et commencer à pas faire d'efforts maximaux, puis après augmenter toujours la fréquence d'exercice et faire des efforts maximaux. Mais dans ce sens-là, on va utiliser celle qui est intermédiaire. Donc la phase préparatoire, on peut le faire ça pendant 6 semaines sans problème. Ensuite, la phase qui est 2, donc qui va être la phase de développement, et ben on va tout simplement peut-être le faire 8 à 10 voire 12 semaines. Par contre, on fera toujours une phase de déload toutes les 3 à 4 semaines. Okay, avant de repartir, etc., sur un autre bloc. Et ensuite, donc, dans ta phase compétitive, notamment pour des disciplines où mon but, c'est de soulever lourd sur peu d'exercices, et ben, on va utiliser celle qui fait un petit peu mal, hein, qui pique un petit peu, qui est le bulgare, qu'on a évoqué en numéro 1, qui est peu de fréquence, peu de variété d'exercice, et une fréquence élevée au niveau des efforts maximaux.
Okay.
Ça, moi, je conseille, même si je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à faire beaucoup plus que ça, 2-4 semaines.
Okay.
D'accord. Et de toute façon, si votre discipline ne vous demande pas d'effectuer des charges lourdes sur peu d'exo, bah, vous pouvez l'utiliser que de manière, on va dire, avec de la parcimonie et sporadiquement. Ouais. Sporadiquement, chercher le terme.
Combien de lifts par semaine? Pour donner une idée.
Très intéressant.
À peu près. Pour.
En fait, si tu choisis, si tu prends pas. Alors, si tu prends par exemple.
Combien de lifts
Combien d'exos lift.
Ouais, enfin de.
Lourd.
Alors, ouais, de lifts lourds. Lourd. Ah, non,
De lifts lourds, du coup. Parce que c'est ce qui va te prendre ton énergie.
Par séance, sur la méthode bulgare,
ouais,
c'est ça que tu disais.
Ouais, c'est ça.
Faudrait pas que tu cumules plus de 5 reps lourdes.
Ok.
3 à 5 répétitions lourdes, vraiment lourdes. C'est-à-dire des répétitions où tu vas vraiment.
Il allait.
Tu donnes, le reste, c'est de la montée de gamme ou ce qu'on appelle du back of set et tout. Donc, l'idée, c'est de tu vas pas cumuler, surtout que tu vas être amené à le faire de manière répétée dans la semaine.
Justement, et dans la semaine, on y viendra combien de fois?
Bah, dans la semaine, ça va dépendre de plein de paramètres en fait. Je peux pas vraiment te donner une réponse sûre, parce que ça va dépendre du temps que tu as pour t'entraîner en termes de nombre de séances par semaine. Par contre, en réalité, tu peux aller jusqu'à 5 à 6 fois. Okay. Et comme de toute façon, le but c'est d'augmenter ton efficience sur un geste, pas moins de 3 fois.
Oui, ouais, bien sûr. Il fallait, faut forcément une quantité suffisante pour que ce soit répété. Ok. Et dernière,
en phase transitoire, bah, c'est celle qu'on avait vue. C'est-à-dire, toujours, on est sur une haute fréquence. On repasse sur une haute fréquence, excuse-moi. Une haute variation d'exercice. Et cette fois-ci, on va diminuer la fréquence des efforts maximaux. Idéalement, lorsque vous faites cette phase-là, notamment si votre sport est un sport lié au fait de soulever des charges, on va réduire le nombre de séances liées au fait de soulever des charges, toujours avec une variété d'exercices et des efforts maximaux peu fréquents. Et on va peut-être faire des activités annexes.
Okay.
Ou la PPG, ce qu'on appelle en PPG, c'est-à-dire d'autres sports ou du cross-training, où on va utiliser d'autres activités.
Ok. Bah, ça me paraît pas mal, hein.
Bon, ça fait 4 méthodologies... C'est assez différent,
c'est des combinaisons. Après, il y a là, on a estimé comme si chaque chose était.
C'est pas vraiment des méthodologies.
C'est des combinaisons. C'est pas des méthodes. Des méthodes, justement, comme je l'ai dit, Nico,
on en reviendra plus tard.
Là, on est vraiment sur des combinaisons, mais ça aide déjà à déblayer le truc.
À comprendre comment le fonctionnement.
L'idée, c'est de déblayer. Aujourd'hui, honnêtement, sur la durabilité et la progressivité. Moi-même, je l'utilise peut-être des fois pas assez régulièrement de charges lourdes. Donc ça, il faut quand même se frotter à des charges lourdes, pas à des sous-max. Mais la méthode évoquée en deux, d'accord, ce que j'appellerais la méthode préparatoire, elle est un peu sous-cotée, mais elle fonctionne assez bien. Donc c'est-à-dire peu d'exo avec des fréquences de stimulation sur les efforts maximaux peu réguliers, mais quand même s'y frotter une fois de temps en temps. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes, notamment, faire un espèce d'hybride entre une très grande variabilité d'exercice, mais avec des charges lourdes trop régulières. La méthode dont je vous ai donné, où je vous dis qu'on a des efforts maximaux réguliers, c'est juste qu'ils sont plus réguliers que la méthode type powerbuilding, où effectivement ça va être peu régulier, mais c'est pas non plus extrêmement régulier, c'est-à-dire que c'est pas tous les jours non plus, il faut faire attention. Parce que qui dit variété dit à un moment donné aussi pour le corps, le fait de varier des exercices, ça va être complexe. Vous allez pouvoir faire des efforts maximaux réguliers à partir du moment où vous allez utiliser la méthode plutôt bulgare et où vous allez avoir peu de variété d'exercices.
Okay.
Pareil, ça là, il faut faire attention, ça ne convient pas à tout le monde non plus.
Okay.
Et sur des microphases de préférence.
Okay. Non, c'est hyper clair. Super clair. Moi, ça me va bien. Comme
t'as des questions ?
Non, parce que je les ai posées au fur et à mesure et c'est bien structuré, c'est bien clair. Non, j'ai pas de questions. Très bien. Moi, ça me va.
Je pense que c'est assez complet là-dessus. Hein.
Ouais.
Sur les combinaisons.
On verra ensuite sur d'autres épisodes rentrer dans des.
Ce que je voulais que les gens comprennent aussi, c'est différencier le côté. Schéma neuromusculaire, donc un pattern de mouvement et un exercice bien précis. Parce que souvent, tu sais, on a tendance à dire ouais, mais de toute façon, du squat, j'en fais puisque au début de semaine, j'ai fait du back squat, puis là, je fais du overhead squat, puis là, je fais du front squat, etc., etc. Ça, c'est bien quand vous avez déjà un pattern de squat qui est correct.
Ouais, il faut passer par les bases. Enfin, il faut et pendant suffisamment de temps, parce qu'on a aussi des athlètes qui progressent très vite. Parce que background sportif, parce que... Et donc, ils progressent tellement vite qu'on a tendance à les faire switcher trop rapidement et à pas les maintenir suffisamment sur cette espèce de base et sur ces espèces de fondations. Enfin, je dis ça, je m'avance.
Bien sûr, c'est ça. Et c'est pour ça, sur les méthodos, on en reparlera, on fera des podcasts sur les méthodos, mais pourquoi là, on ne voulait pas trop parler de méthodos? C'est tout simplement parce qu'on a l'impression que les méthodos, c'est une méthode qui va... Oh, j'ai fait cette méthode-là, elle m'a rendu plus fort. Non. En fait, les méthodos, c'est, si tu veux, le format, le cadre que tu vas donner, mais en réalité, les leviers sur lesquels tu vas jouer, c'est bien comment je vais varier mes exercices et quelle va être la fréquence où je vais aller chercher des charges lourdes sur ces exercices-là. Si les gens comprennent ça, en réalité, tu peux rester sur du classique au niveau des méthodos et déjà, juste, tu vois, en ayant deux paramètres, jouer sur ces deux paramètres. Mmh. Souvent, les gens, en fait, ils ont beaucoup d'outils dans leur caisse et ils utilisent tous ces outils tout le temps et ils changent tout le temps. Mmh. Et c'est là où, à un moment donné, il y a un manque de constance, tu vois.
Oui, et un manque de compréhension du physiologique.
Bien sûr, comment ça fonctionne.
Comment ça fonctionne. Donc, ok, très clair. Non, ça me va pas.
Et non, bah, c'est bon.
Moi, je pense qu'on est bon, on est à 35-34 minutes.
Ok, bah écoute, le but, c'est aussi que les gens aient suffisamment d'éléments. Après, voilà, ne pas hésiter sur ce genre de podcast parce que nous, ça nous nourrit et puis ça permet aussi de répondre peut-être à des problèmes qu'on peut soulever, d'interagir et de poser des questions. Et à ce moment-là, bah, on les rentrera dans un autre podcast. Mmh. L'idée, c'est d'essayer de couvrir quelque chose de suffisamment large pour vulgariser.
Ouais. Là, moi, j'ai le cerveau qui fume parce que j'ai été très, très attentif sur deux enregistrements assez techniques.
Ouais, sur les combinaisons, les principes. Non, ce qui est cool, c'est que tout le monde peut améliorer sa force. Ça, c'est ça. C'est quand même très bonne chose. C'est qu'il y a quand même beaucoup de facteurs sur lesquels on peut jouer.
Autre que de soulever les charges lourdes. Même si je sais, parce que c'est encore un débat que j'ai eu. Parce qu'il y a pas mal de personnes, même des très, très bonnes personnes hein, qui des très très bons préparateurs physiques, des mecs que vraiment j'admire, mais qui focalisent un peu sur le soulevé lourd, mais parce que de temps en temps ils sont dans des disciplines où soulever lourd a du sens, tu vois ce que je veux dire. C'est à dire que effectivement, que si par exemple t'es amené à faire de la force athlétique, à faire de l'haltérophilie, et encore l'haltérophilie ça se discute parce que la prédominante technique est quand même très importante, donc t'as quand même pas mal de personnes qui vont, il y a beaucoup d'athlètes qui utilisent le bulgare, sans parler de certaines choses, mais il y a beaucoup d'athlètes qui utilisent le bulgare et il y a quand même aussi pas mal d'athlètes qui font ce qu'on appelle du travail quand même sous-maximal, et qui vont aller faire du maximal une fois de temps en temps ou vraiment au niveau des compètes. Donc ça existe. Mais quand tu es dans ces disciplines-là où tu as affaire à de la force qui est strictement liée à des charges lourdes, eh ben, c'est vrai que ça a du sens pour toi de dire que à un moment donné, les débutants, une fois qu'ils ont construit les bases, il va falloir développer leur force avec des charges lourdes une fois qu'ils ont passé ce... Ça a du sens. Mm-hmm. Sauf que maintenant, si par exemple, moi je suis un mec qui veut développer ma force dans une certaine amplitude de mouvement parce que c'est spécifique à mon activité, notamment dans certaines disciplines, notamment le street workout ou la gymnastique, on parle de end range strength. Donc c'est de la force sur de fin d'amplitude. Mm-hmm. Chez eux, ça a du sens parce qu'à un moment donné, ils sont amenés à avoir des tensions musculaires maximales, mais en fin de course.
Avec des sons
qui est plus rare sur du squat ou ce qui est plus rare sur d'autres mouvements, tu vois.
Sur des angles faibles, quoi.
Et en plus, sur des positions bien particulières. Donc là, du coup aussi, notamment, tu vois, aujourd'hui, on travaille le muscle-up avec Elé et elle fait beaucoup ce que j'appelle de la force de position. Donc c'est ce qu'on appelle le positional strength. On peut aussi en retrouver en squat et en deadlift, mais en squat et en deadlift, on va les retrouver pas forcément sur des fins de course d'amplitude. Ça peut arriver sur de la force athlétique, sur de l'haltérophilie, mais ça va être plutôt à des points particuliers. Mais là, par exemple, sur elle, on sait clairement qu'à un moment donné, sur de l'amplitude finale, il va falloir qu'on développe de la force chez elle, parce que ça va être probablement un facteur limitant, sur le muscle-up plus tard, etc., etc. Et en plus, au-delà de ça, c'est que cette force-là, elle peut être intéressante pour... la discipline sportive ou la spécificité d'un geste, mais elle permet aussi, notamment dans ces gestes où je vais aller chercher des mouvements en fin de course, notamment par exemple du lancer de javelot, si on prend l'exemple, de limiter le risque de blessure.
Mm-hmm. Bien sûr.
Donc, c'est pour ça qu'on va avoir des athlètes qui vont pas forcément, quand on va leur demander de pousser un développé couché ou de pousser du soulevé terre et du squat, vont pas forcément démontrer une force absolue énorme. Mais dans un geste bien spécifique technique, lorsqu'on va leur demander de lancer un javelot, putain, toi, t'as beau faire 150 kg ou 200 kg de bench, le lancer de javelot, t'es pas capable de le faire comme lui, ou tu peux te démettre une épaule en plus en faisant. Donc, c'est aussi.
Tu veux en faire quoi en fait ?
Tu veux en faire quoi ? Et c'est aussi de comprendre qu'à un moment donné.
Ça sert à rien d'avoir un effort max, énorme.
Là, tu viens de dire, c'est qu'à un moment donné, faire un 1RM, c'est une skill qui est liée aussi à soit une discipline sportive, soit une compétence bien particulière. C'est-à-dire qu'être capable de fournir un effort maximal pour une répétition, c'est aussi une compétence technique.
Bien sûr, et c'est un sport.
Et chez certains de mes athlètes, j'en ai pas du tout besoin. Ça a même pas du tout de sens, tu vois ce que je veux dire. Le ratio en plus risque-récompense pour lui est peut-être trop...
Il y en a pour qui soulever 2-3 fois le poids de corps, ça n'a pas de sens. Enfin, ça ne va pas les aider plus que
exactement.
Ça. Peut-être qu'une fois leur suffit, deux fois ne va pas forcément augmenter leur niveau.
Exact. Alors, ça peut quand même, il y a des facteurs de synergie qui vont jouer, mais ce que tu viens de dire, c'est ça, c'est que être capable aussi de recruter un maximum de muscles à un moment donné pour soulever, pour faire un deadlift, c'est une compétence. Mm-hmm. En plus de se développer physiologiquement, c'est une compétence aussi technique spécifique. Quand tu as des personnes qui, malgré le fait que ce n'est pas lié à leurs objectifs, s'entêtent de par l'ego à vouloir faire un 250 kg au soulevé de terre ou un 100 ou un 200 kg au squat, moi le premier, hein, pendant des années j'ai fait ça et je pensais que cette chose-là était proportionnellement égale à la force que j'avais. Mais en fait, oui, mais de manière spécifique. Mmh. Et pas forcément dans l'exploitation que moi je veux faire de la force. T'en reviens au même, par exemple, on te donne un peu, par exemple, parce que j'en parle en ce moment, parce que souvent on évoque, sur le muscle up, si on te donne des ratios. On te dit, voilà, le muscle up, tu dois absolument faire tant de tractions et tant de dips pour pouvoir faire un muscle up. Mais c'est pas vrai, en fait. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on te dit pour éviter de te blesser ou avoir le minimum. Par contre, en réalité, si t'es quelqu'un qui a une productivité de ta force optimale, avec beaucoup moins de nombre de dips et de tractions, t'es capable de faire ton muscle up. Et des fois, on arrive, par exemple, des gymnastes, des nanas gymnastes qui n'ont pas forcément une force énorme, mais qui sont capables de faire une bascule, alors sans parler du fait qu'elles vont utiliser l'élan. Ouais, ouais. Parce que quand tu utilises l'élan, bah, effectivement, c'est plus compréhensible que lorsque tu fais en force pure. Il faut faire aussi la différence entre les deux. Mais à partir du moment où je te laisse capable d'utiliser de l'élan, bah, tu n'as pas besoin de faire autant de traction et de dips qu'on veut. Par contre, tu as besoin d'apprendre la productivité, la synergie, la coordination des différents schémas et des différents mouvements pour y arriver. La technique.
La technique qui rentre en jeu, évidemment.
Donc moi, il faudrait pour que je l'aie avec un peu moins de force, il faut que je m'améliore en technique.
Exactement. C'est, ce que tu dis, c'est très intéressant. C'est qu'en fait, en fonction de là où t'es, eh ben, on va essayer de soit tirer sur l'un,
soit
tirer sur l'autre. Par exemple, si j'ai un athlète qui est extrêmement technique, à un moment donné, bah, je ne vais pas développer plus sa technique parce que, bah, à un moment donné, je vais essayer de jouer sur les autres ratios, c'est-à-dire peut-être développer sa force pure, tu vois. Parce que je sais que ça va avoir un impact avec une technique qui est déjà vraiment top pour pouvoir augmenter. À l'inverse, si j'ai un même athlète où j'ai du mal à développer sa force pure, mais que je vois qu'il y a encore de quoi grappiller sur la technique et qu'il n'est pas optimal sur la technique, bah, je vais aller chercher dans la technique, tu vois.
Et là, avec moi, t'en es...
Je suis sur ça. Par contre, en parallèle, on développe quand même de la force. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, j'essaie quand même de jouer sur les deux leviers. Okay. Mais c'est là où, par exemple, dans certaines disciplines, c'est à des ratios de force. C'est-à-dire qu'on estime des ratios de force nécessaires pour pouvoir exécuter tel mouvement. Et à un moment donné, si tes ratios de force ne rentrent pas en jeu, bah, ce n'est pas la peine de développer de manière plus importante ta force maximale s'il est déjà beaucoup plus haut que les ratios. C'est qu'à un moment donné, au niveau technique, il y a des choses à développer.
C'est autre chose que tu dois travailler.
Exactement.
Ok, bah écoutez, on est à 40 minutes, je pense qu'on est bon.
Sans faire exprès, on a rallongé de 10 minutes là.
Ouais, bah c'est la base.
C'est la base.
C'est souvent comme ça.
C'est un peu
de notre podcast. Ouais. Merci beaucoup les gars, c'était passionnant.
Merci Léa, merci Tom pour toutes ces précisions.
Je vais aller mettre mon cerveau au repos. Non mais j'adore, putain, je me forme, j'ai une formation en live à chaque fois, je kiffe. Merci les gars.
Allez, ciao ciao.
Bonne
ciao.
Soirée.
Bye.
Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Retrouvez-nous également sur Instagram @intuitivetraining.fr. Vous pouvez nous y poser toutes vos questions, nous les traiterons sur les prochains épisodes du podcast. Pour les infos sur nos offres de coaching et nos programmes, rendez-vous sur notre site internet intuitivetraining.fr. À très vite !